Merci. Alors, pour cette conclusion qui, rassurez-vous, sera assez brève, après cette journée qui était très, très riche, très fructueuse, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, La Joie par les livres, enfin je ne détaille pas, hein, le Centre National, etc., et Interbibli et aussi la Bibliothèque municipale de Reims, de m'avoir fait l'honneur de me demander de faire une synthèse, qui est un exercice toujours délicat, parce que on peut le faire de plusieurs façons, toutes valables ou bien d'ailleurs non valables. Une première façon de faire la synthèse, c'est de reprendre chacune des interventions, de la résumer en quelques mots et d'essayer de voir le lien, mais d'une intervention à l'autre. Mais je pense que c'est pas la bonne méthode pour aujourd'hui, parce que un des premiers constats que j'ai fait tout au long de la journée et que je peux confirmer à l'issue de la journée, c'est qu'il y a une grande cohérence dans le plan qui a été dans le plan de l'ensemble de la journée, la suite des interventions, leur cheminement logique. Je pense que ça a été l'objet d'une mûre réflexion. Et je vois par exemple que cet après-midi qui était consacré à la coopération en action donne une image plus positive, plus encourageante. Alors c'est bien parce qu'on va sortir de la salle avec des encouragements, que la matinée où on avait quand même l'impression en fin de matinée que, je caricature un peu, hein, je schématise, on n'avait pas beaucoup fait de progrès depuis 2002, et c'est-à-dire depuis la précédente journée d'études. Bien, mais je pense que c'est comme ça qu'il fallait envisager les choses, parce que justement, la coopération entre bibliothèque et éducation nationale, eh bien, elle se fait nécessairement par l'action, beaucoup plus que par l'institutionnalisation, puisque on constate, on l'a constaté il y a 10 ans, on le constate aujourd'hui, je pense qu'on le constatera demain. Cathy Itta, qui a encore fait allusion en parlant de ce qui se tramait derrière elle dans son dos, du point de vue institutionnel, on est dans un monde extrêmement compliqué et qui n'est pas du tout appelé à se simplifier. Alors, je vais y revenir dans quelques instants, parce qu'il est bien évident qu'il faut envisager tous les moyens d'institutionnaliser la coopération, de la formaliser, plusieurs intervenants l'ont dit, et en même temps je me dis dans mon fort intérieur que c'est quasiment impossible, et que donc à un moment ou à un autre, au fil de l'expérience, du lieu où on est, du milieu dans lequel on est, eh bien on doit tabler sur les relations interpersonnelles qui peuvent donner les bons résultats, quitte à espérer ensuite les rendre plus institutionnels. Dans le titre, l'intitulé de la journée, Bibliothèque et Éducation nationale, moi je m'étais interrogé avant le début de la journée sur le fait qu'on n'avait pas mis bibliothèque et école, et Jacques Vidal-Naquet donc, a donné une partie de la réponse en disant que c'était bien volontaire, hein, d'employer plutôt éducation nationale et école, qu'école, mais il n'empêche que ça continue de m'interroger, parce que ça veut dire qu'on met l'accent justement sur le problème, hein, j'insiste, sur le problème que constitue l'institution, en l'occurrence. Alors, je n'en veux pas à l'éducation nationale, qui a des représentants dans la salle, je suis moi-même bibliothécaire, mais je pense que la difficulté vient essentiellement de la structure de cette institution par rapport aux institutions que nous connaissons dans les bibliothèques, nous. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, les bibliothèques, c'est l'enseignement supérieur pour les bibliothèques universitaires. C'est pas forcément simple, hein, Laurence Tarin pourra en témoigner, mais c'est un paysage relativement clair, parce que les bibliothèques universitaires, il y en a pas énormément. Il y a une centaine d'universités. Elles sont en train de se regrouper, donc avec un petit peu de chance, d'ici 5 ans, on n'aura plus qu'une vingtaine d'universités, donc ce sera encore plus simple qu'avant. Du côté des bibliothèques, institutionnellement, c'est très simple. Il n'y a plus de tutelle et chaque collectivité est indépendante. Donc on a effectivement un paysage très émietté de 40 000 collectivités, mais où le rapport est direct, entre, ou quasiment direct, entre le bibliothécaire et sa tutelle administrative ou ses élus. Et c'est du côté de l'éducation nationale, hein, donc c'est cette espèce de structure extraordinairement difficile à comprendre et à appréhender, que les choses sont plus difficiles. Plusieurs intervenants l'ont dit aussi. Une des difficultés qu'on éprouve quand on veut commencer quelque chose, quand on veut continuer quelque chose, c'est de savoir où sont les interlocuteurs, qui ils sont, comment on peut les contacter. Donc c'était pas neutre, effectivement, qu'on mette bibliothèque et éducation nationale plutôt que bibliothèque et école, mais il est évident que du côté du rapport entre la bibliothèque et l'école, là, on n'est plus dans la situation d'il y a 10 ans, on n'est bien entendu plus du tout dans la situation d'il y a 20 ou il y a 30 ans. Les choses ont beaucoup évolué. Je vous renvoie à ce qu'ont dit successivement Caroline dans son panorama historique, Laurent Starin qui y est revenu aussi dans le début de l'après-midi. Hein, j'aurais pu citer aussi le début d'un article de Max Bulten dans un dossier de 2004, je crois que c'est le dernier dossier paru sur le sujet dans le BBF, hein, sur les rapports entre la bibliothèque et l'école, qui faisait le constat, c'était donc il y a, en 2004, il y a 7 ans, que, en fait, les deux, la bibliothèque d'un côté et l'école, s'étaient beaucoup rapprochés, avaient compris leur place respective, et que chacun avait fait du chemin vers l'autre. En particulier parce que, justement, à un moment déjà ancien, comme l'a dit Caroline, la bibliothèque jeunesse non obligatoire, très démarquée de l'école, eh bien, ne pouvait être que complémentaire de l'école et non pas concurrente de l'école, et qu'il fallait que l'école et les bibliothèques collaborent les unes avec les autres. Alors ensuite, où les choses commencent à se compliquer, c'est que, là, je revois encore à la fin de l'intervention de Caroline Rive. Elle a dit, depuis 1998, je ne suis plus du tout sur ces questions. Je ne peux pas croire que, Caroline, tu ne les suives pas encore un petit peu, au moins par curiosité personnelle. Mais tu as insisté sur deux points. Laurence y est revenue aussi dans l'après-midi. Le premier, c'est la lecture des étudiants et l'usage de la bibliothèque hors des besoins liés aux études, hors des besoins liés aux études. Et puis, tu as terminé sur l'irruption d'Internet. C'est un sujet qui a été repris dans l'après-midi, en particulier dans la table ronde avec Jean-Pierre Véran. Et c'est ce qui me fera d'ailleurs la conclusion de cette synthèse. Comment définir des objectifs communs bibliothèque et école à l'heure d'Internet, à l'heure de la documentation numérique. Je cite « Traiter les digital natives, quel lecteur, quelle lecture, quel accompagnement, quelle formation ? Et est-ce qu'on assiste à une mort de la lecture littéraire ?» C'est une question que tu as posée, etc. Et ces questions, en fait, n'ont été, ça me frappe, mais ça n'est un reproche pour personne, n'ont été traitées aujourd'hui en réalité qu'en filigrane. Mais parce qu'elles sont en filigrane dans nos têtes, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles sont essentielles, mais on ne sait pas bien comment les traiter encore aujourd'hui. Et alors s'il s'agit de les traiter en commun entre collègues des bibliothèques et collègues de l'éducation nationale, ça devient encore un peu plus compliqué. Il y a là une sorte de trou noir. Et pourtant, c'est un enjeu fondamental. C'est même une question, je dirais, plus brûlante que jamais. Donc, si j'essaie de ramasser un petit peu les réflexions que ça m'a inspirées, je dirais ceci. L'école, elle forme des enfants qui, aujourd'hui, enfin ceux qui sont à l'école primaire, déjà pratiquement ceux qui sont au collège, en tout cas ceux qui sont dans les premières années du collège, des enfants qui sont de la génération des écrans, c'est-à-dire qui ont appris à lire, à l'école forcément, puisque l'école, c'est l'apprentissage de lecture, de la lecture, mais qui ont appris à lire au sens général, hein, c'est-à-dire à décrypter un message, à l'assimiler, etc., par les écrans. et pas par le livre. Hein. Je prétends que les deux ne sont absolument pas incompatibles. Mais enfin, la lecture, pour ces nouvelles générations, c'est d'abord la lecture des écrans. Donc, l'école forme aujourd'hui des enfants, des adolescents, qui seront des lecteurs radicalement différents de tous ceux qui les ont précédés. Il faut insister là-dessus, hein, même s'ils lisent des livres, évidemment. Ils vont être des lecteurs de livres et en même temps des lecteurs sur les écrans, habitués quotidiennement, dans des proportions beaucoup plus importantes à l'écran qu'au livre. Sans un partenariat avec l'école sur la découverte du livre, ces jeunes qui lisent peu ne viendront pas à la bibliothèque. Ils ne viennent déjà pas beaucoup, mais ils ne viendront plus du tout. Parce que la bibliothèque continuera d'être le lieu du livre d'abord, ce qu'évidemment elle doit être. Mais j'insiste sur quelque chose qu'a dit Jean-Pierre Véran à un moment. Il a dit qu'il fallait dépasser effectivement l'identité de la bibliothèque qui est strictement définie par le livre aujourd'hui, ce qui n'est plus possible. Il parlait des CD entièrement numériques, il y a eu quelques sourires, effectivement, surtout quand dans le CD entièrement numérique, il n'y avait plus de professeur documentaliste. Évidemment, ça simplifierait les choses. Mais je crois que sur le fond, il a raison, c'est-à-dire que la bibliothèque, qui est le lieu du livre, qui est le lieu où effectivement on peut, le lieu de la lecture plaisir, le lieu de la lecture découverte, le lieu de la lecture en liberté, puisque ça n'est pas un lieu contraint, c'est aussi aujourd'hui, de fait, hein, Christine pourrait en témoigner, bien autre chose que le lieu du livre. Ce sont les médiathèques, ce sont des lieux effectivement où on a accès à toutes sortes de messages, toutes formes de messages, et il faut que cette information essentielle, elle soit assimilée par ceux qui, demain, seront à même, effectivement, d'être les publics des bibliothèques. Et ça n'est pas possible s'il n'y a pas une collaboration étroite sur ces bases-là avec les collègues de l'Éducation nationale. Alors, cela dit, alors donc, après cette interrogation conceptuelle, je me suis dit aussi que ce qui était, disons, sous-jacent à cette interrogation, c'était une question qui a été également reprise à plusieurs fois dans la journée, qui était la question de la continuité. Alors, même dans l'intervention de Cathy Itac, on le sent, parce que vous parlez de votre expérience avec des adolescents, essentiellement, hein, des grands adolescents, souvent. On a parlé des préadolescents du collège, on a parlé des enfants à l'école primaire, et on se pose toujours la question de savoir comment, d'un âge à l'autre, d'un ordre à l'autre, rappelez-vous ce qu'a dit Jean-Pierre Vernant sur l'ordre du primaire et l'ordre du secondaire, on peut assurer la continuité de la pratique de la lecture, de la pratique de la bibliothèque. Voilà. Or, ça, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile à théoriser, c'est très difficile à mettre en pratique et c'est encore plus difficile à institutionnaliser parce que l'institution n'est pas faite pour ça. Il y a une grande part d'intuition aussi qui entre en ligne de compte. Vous avez certainement tous noté un chiffre extrêmement alarmant, je suis toujours dans ma continuité, cité par Christophe Séné. Bon, qui ne pourra pas me démentir puisqu'il est parti, mais il avait un train à prendre. Dans les bibliothèques, 80%. Alors, ce sont les chiffres que les bibliothèques ont renvoyés au ministère, hein, en espérant qu'un jour ils soient disponibles, ils vont l'être. 84% des bibliothèques déclarent travailler avec des écoles, 20% avec des collèges, 9% avec des lycées. De 20% avec des collèges, 9% avec des lycées, bon, il y a une baisse compréhensible qui est forte, mais qui est beaucoup, beaucoup moins dramatique que la première baisse de 84% avec 20%. Hein. Mais vous êtes plusieurs à l'avoir signalé. Christine l'a signalé. Loyalement signalé le principal de Romainville, dont je vous prie de m'excuser, j'ai oublié le nom, qui est, voilà, Pétoin. Mais c'est parce que j'ai avec moi un ancien programme et que les noms ont beaucoup... Cataillé, voilà. Donc celui qui ne s'appelait pas Cataillé, comme d'autres ne s'appelaient pas Montiel, qui a dit... voilà, le problème, c'est le collège. Hein. Il l'a martelé, il l'a dit plusieurs fois, on n'arrive pas à faire des choses qui tiennent avec le collège. Or, le collège est essentiel, parce qu'il y a la continuité avec l'école, et s'il n'y a pas des actions efficaces au collège, il n'y aura pas de continuité ensuite avec le lycée et avec la bibliothèque. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, et il est évident que là, la réponse ne peut pas être seulement une réponse d'initiative locale, d'initiative individuelle, de relations interpersonnelles. Elle est nécessairement aussi une réponse institutionnelle. Et c'est là que la difficulté commence vraiment. Alors, le même, donc, Pétoin, c'est ça, pardon, j'ai oublié son prénom aussi. Ludovic Pétoin, a fait un moment dans son intervention, une brève liste de ce qui était nécessaire pour, disons, de ce qui étaient les conditions de la réussite. Alors, ce ne sont pas les seules conditions, et le fait de réunir ces conditions n'est pas une garantie absolue de la réussite. Néanmoins, il a dit que la première condition, c'était ses maîtres mots, c'est le vocabulaire qu'il a employé, c'était la formalisation des projets. Et je crois que là, il y a un consensus qui s'est dégagé dans la journée, puisque beaucoup d'intervenants l'ont dit, des expériences comme celles que vous avez mentionnées en Languedoc-Roussillon le montrent aussi, hein, dans des partenariats qui vont au-delà de la bibliothèque et de l'école, avec donc l'ensemble des acteurs culturels, il n'y a rien de possible sans une formalisation des projets, formalisation la plus poussée possible. Il n'y a rien de possible, c'est une autre condition, sans des partenariats. Alors, je pense que les partenariats y sont effectivement, bien entendu, entre la bibliothèque et l'école, mais ils sont aussi avec d'autres partenaires qu'il faut aller chercher, qu'il faut identifier et qu'il faut aller chercher. Et il a dit, en troisième point, qu'il fallait dépasser les frontières institutionnelles. Ça m'a bien plu, ça, parce que ça veut dire que quand on se heurte au mur de l'institution, il y a deux attitudes. La première, c'est de vouloir abattre le mur. C'est illusoire. La deuxième, c'est de, si on ne peut pas passer par-dessus le mur parce qu'il est très haut, c'est de passer à côté du mur. C'est de contourner l'obstacle. Et dans l'esprit de Ludovic Pétoin, contourner l'obstacle, c'était s'appuyer sur un lien fort avec les élus locaux, car c'est la forme la plus simple de l'ancrage territorial. Et c'est encore un thème qui est revenu tout au long de la journée, l'ancrage territorial, l'inscription de l'action dans le territoire. Et là, bien entendu, on dépasse les frontières institutionnelles forcément, puisqu'on est obligé de penser les choses au-delà des compétences que l'on a. Le bibliothécaire d'une bibliothèque municipale ou intercommunale, au-delà des compétences de sa commune, de son intercommunalité, entrant dans les compétences de l'école. Le bibliothécaire départemental intervenant là où il n'est pas censé intervenir, c'est-à-dire intervenant dans les bibliothèques municipales, pourquoi pas, effectivement, ça fait partie de ses missions, ou intervenant aussi dans les collèges, ou avec les collèges, alors que ça n'est pas exactement sa compétence, hein, ou, voilà, etc. Il y a des croisements qui sont possibles, mais qui obligent à, disons, franchir certaines frontières institutionnelles. Alors, à ce sujet, sur le territoire, si je retrouve bien exactement, c'est difficile de sortir. Voilà. Vous ne pouvez pas faire tenir debout, enfin faire tenir une chaise ou une table sur deux pieds. Il n'y a qu'un seul objet qui tient à peu près debout sur deux pieds, c'est l'homme, l'être humain. Voilà. Mais une chaise, une table, vous ne pouvez pas, il vous faut au moins trois pieds pour que ça tienne. Eh bien, si je file la métaphore, ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire ? Ben, je veux dire que vous avez un premier pied qui est la bibliothèque, où qu'elle soit. Il y a un deuxième pied qui est l'éducation nationale, l'école, l'institution éducative, et il y a un troisième pied. Aujourd'hui, c'est nouveau parce que, si vous voulez, on ne l'identifiait pas comme tel et on ne l'identifiait pas comme un partenaire naturel il y a 10 ans, à mon avis. c'est le territoire, c'est-à-dire l'élu territorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour construire une action entre la bibliothèque et l'école, eh bien, il faut imaginer de ne plus la construire à deux, la bibliothèque, l'école, mais de la construire systématiquement à trois, la bibliothèque, l'école et le représentant du territoire. Je crois que c'est une des leçons qu'on pourra tirer des échanges de cette journée, à mon avis. Et ça, c'est très positif, même si c'est intervenu dans le courant de la matinée et dans un climat, je dirais pas de morosité, mais dans un climat où plusieurs personnes ont dit « mais on n'a pas dépassé les difficultés qui ont été identifiées depuis très très longtemps dans le partenariat entre la bibliothèque et l'école. On n'arrive pas à savoir comment les dépasser, mais pourtant on a quand même identifié et on a indiqué qu'il y avait une solution possible qui était ce partenariat à trois. Et ainsi pourra-t-on vaincre ce que Michel Sineux, que certains d'entre vous connaissent ou ont peut-être connu, appelait si joliment, ça a été repris à plusieurs reprises, une formule qui a eu du succès, la malédiction des organigrammes. Voilà. J'aurais aimé beaucoup ça. Alors, dans cet après-midi, je l'ai signalé au début et je suis presque à la fin, rassurez-vous. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait, par ailleurs, dans les échanges des deux tables rondes, une forme de... Mais aussi dans la table ronde de la fin de la matinée, ce qui était peut-être un peu plus surprenant, même s'il y a eu des aspects négatifs et puis quelques échanges où il y avait effectivement un désaccord qui pouvait être dépassé. J'ai senti une forme de consensus, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'étape suivante, en dehors de ce partenariat à trois que j'évoquais, l'étape suivante de la collaboration entre les bibliothèques et l'école sur la lecture, c'est une meilleure connaissance réciproque. C'est déjà largement commencé, mais je pense que ça doit pouvoir aller plus loin. Alors, la formation est essentielle. Les formations croisées sont un excellent instrument. D'autres idées ont été avancées. Et je pense que, par exemple, inviter systématiquement... Alors ça, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Inviter systématiquement, pas seulement les représentants officiels, mais d'autres représentants des associations de l'association de professeurs documentalistes, parce que vous avez de la chance de n'en avoir qu'une, vous. Oui. Non, mais parce que nous, on en a plusieurs. Et en général, elles se reproduisent par parthénogenèse. Oui, c'est comme les cellules. Voilà. On en a une, puis deux, puis trois. Bon, je ne sais pas où on s'arrêtera. Mais voilà, vous en avez une. Bon, l'idée systématique d'inviter des représentants de la FADBEN à nos réunions associatives et de faire l'inverse, c'est un premier pas. Il faudra certainement aller plus loin, mais ça permet à chacun de sortir aussi, et c'est très, très nécessaire et très positif, de ces stéréotypes. On établit de cette façon des relations qui, sur des bases qui correspondent à la réalité, vraiment, et non pas à l'image que l'on a du partenaire. Et beaucoup d'expériences ont certainement été vouées à l'échec parce qu'on avait une image du partenaire qui n'était pas la réalité, qui ne correspondait pas à la réalité, et on attendait du partenaire ce qu'il ne pouvait pas donner, en fait. Donc, si vous voulez, on a une... Dans le partenariat, dans l'ensemble, moi, j'ai senti dans les échanges qu'on avait identifié clairement une tension latente ou quelquefois qui n'était plus latente, qui était réelle et qui, au fil des années, n'avait pas été résolue entre l'incompréhension d'un côté... on ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage. Est-ce qu'on veut vraiment la même chose? Est-ce qu'on doit travailler ensemble? Et l'instrumentalisation de l'autre. C'est-à-dire que je vais profiter effectivement de ce que vous savez faire pour l'utiliser à mon propre profit. C'est C'est des choses qu'on peut avoir vues. Donc, si on dépasse si on résout cette tension, hein, en essayant de se mieux connaître, en essayant d'apporter chacun une part à l'œuvre commune, eh bien, on a plus de chances de réussir. J'ai senti qu'il y avait un désir de se rapprocher qui était manifeste. Ça a été dit à la tribune en ces termes: se parler avec franchise, être au clair sur ce qu'on fait et ce qu'on est pour réussir les actions de coopération. Et alors, je terminerai, là encore, si je trouve mes dernières notes, en disant que l'histoire des relations entre la bibliothèque et l'école, et je ne parle pas ici d'éducation nationale, c'est une histoire qui s'est écrite lentement, avec des allers-retours, Caroline Drive en a rappelé quelques-uns, des essais non transformés. Encore aujourd'hui, une difficulté réelle à coopérer, avec beaucoup de facteurs, dont certains sont clairement connus et peuvent être analysés, peuvent être dépassés, d'autres le sont moins. Mais cette histoire s'est écrite et elle a fait progresser les choses. Et je pense que l'école... Les profs, les enseignants connaissent mieux les bibliothèques, ils savent mieux ce qu'on y fait et inversement. Voilà. Je crois qu'il faut aller plus loin aussi, avoir de l'audace et se dire que la coopération ne pourra pas aller, disons, s'améliorer encore, être véritablement efficace si on n'accepte pas que l'autre, le partenaire, intervienne sur son propre terrain. Les enseignants qui interviennent dans les comités de lecture, les bibliothécaires qui interviennent éventuellement avec le CDI, y compris sur les choix documentaires. Hein. C'est-à-dire pas marcher sur les plates-bandes de l'autre, pas lui marcher sur les pieds, mais aller plus loin que s'intéresser simplement à sa compétence, mais dire est-ce qu'on ne peut pas partager certaines compétences, hein. Puisque nous avons des culture commune, des compétences communes, il y a peut-être des choses qu'on peut faire véritablement en commun. Ce qui ne veut pas dire faire le travail de l'autre. Pourquoi ? Parce que la bibliothèque et l'école sont dans un espace et un temps différents. Là aussi, ça a été dit, le temps long de l'éducation. Hein. L'espace est différent. La bibliothèque, aujourd'hui, ça c'est un progrès immense qu'on a fait en 30 ans, est un lieu véritablement libre. Et demain, ce sera l'un des derniers lieux où on pourra entrer librement, un des derniers lieux gratuits, un des derniers lieux où on ne vous demande pas de justificatif pour entrer. Or, là encore, Jean-Pierre Véran a beaucoup insisté là-dessus, la bibliothèque est un instrument essentiel aujourd'hui, un outil, il a parlé d'outil, pour l'accès à la citoyenneté. L'éducation à la liberté, à l'esprit critique. Hein. Or, et on revient sur nos pieds, sur ce qu'on disait au début, cette éducation, elle va se faire, elle va se cristalliser au moment du collège. Il est donc absolument essentiel, effectivement, que l'on s'intéresse en priorité à ce qu'on peut faire avec le collège et avec les enfants au collège. Je termine. Cette fois-ci, vraiment, sur Internet, ce que j'ai dit en début, si j'avais un regret par rapport à tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ce serait justement qu'on ne soit pas déjà allé plus loin dans l'analyse de ce que va être demain, dans le partenariat entre la bibliothèque et l'école, la place de la documentation numérique et des ressources numériques, la place de l'électronique, parce que justement, on risque de retrouver quelque chose qu'on n'imaginait peut-être pas il y a 10 ans. On pensait qu'on n'aurait pas ce problème-là. Hein. Les problèmes, ils arrivent toujours du côté où on ne les attend pas. C'est que on construit des partenariats sur le livre. Ils sont absolument indispensables. Ils peuvent donner d'extraordinaires résultats. Mais si on ne construit les partenariats aujourd'hui, moi je suis malheureux de dire ça comme bibliothécaire, mais je dois le dire, si on construit les partenariats des bibliothèques et de l'école aujourd'hui uniquement sur le livre, eh bien on perdra tout, y compris les partenariats sur le livre. Donc il faut construire les partenariats sur l'ensemble de ce qu'on peut faire en commun, c'est-à-dire toutes les ressources documentaires, hein, et toutes les ressources de médias qu'on peut trouver dans les bibliothèques, dans une perspective qui, cette fois-ci, est à la fois éducative, nécessairement, et culturelle. Voilà ce que j'ai retenu, moi, parmi d'autres choses de cette journée. Vous avez fait certainement votre propre synthèse, très différente de la mienne. J'espère que les représentants de l'éducation nationale et de l'école qui sont dans cette salle ont intégré dans leur vision, dans leur synthèse, un peu de la vision des bibliothécaires et inversement que les bibliothécaires ont intégré un peu de la vision des éducateurs et des professeurs documentalistes et que les points de vue se sont rapprochés. Voilà, en tout cas, d'ici la prochaine journée d'études, c'est tout ce qu'on peut souhaiter en se félicitant de la qualité de celle d'aujourd'hui. Merci.